Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, une émission diffusée en direct sur notre site chaque vendredi à 18h et disponible très prochainement en podcast et téléchargement. Elle est également diffusée par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France, PFM à Arras sur le 99.9 et Radio Plus à Douvrin sur le 104.3. Micro-Rebelle Hebdo, c'est un magazine des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà, mais aussi des alternatives politiques et économiques. Si vous voulez en discuter avec nous, nos locaux sont ouverts, vous pouvez aussi nous proposer des idées de reportage. Enfin, si vous voulez vous dégourdir les oreilles, cette émission est ouverte au public, n'hésitez pas à passer un vendredi soir. Pour cette émission, une équipe restreinte en studio, vu que je suis seul avec Jonathan. Salut Jonathan.
Salut.
Cela ne nous empêchera pas de fournir à nos auditrices et auditeurs des contenus de qualité, un agenda que présentera Jonathan, une revue de presse préparée par Lucien, mais que je ferai une interview par téléphone aussi de Jérémy Fitoussi de l'association Terre de Liens au sujet de l'implantation d'un maraîcher bio à Loison sous Lens et de la musique libre. Mais d'abord, un peu d'actualité. La première AG des AG du mouvement des Gilets jaunes a eu lieu à Sorcy-Saint-Martin dans la Meuse les 26 et 27 janvier et elle a rencontré un vrai succès. Ce sont 75 groupes locaux de Gilets jaunes représentés par plus d'une centaine de délégués qui se sont réunis dans une ambiance chaleureuse. La majorité des groupes se structurent autour des ronds-points, souvent des cabanes, constituent des QG d'organisation de la lutte et de prise de décision collective. Parmi les thématiques abordées, au premier plan, les revendications sociales et fiscales, la question de la structuration des Gilets jaunes aux élections européennes, elle a été massivement dénoncée. Enfin, le boycott ou la perturbation du grand débat. Il est d'ores et déjà acté de poursuivre l'organisation d'autres AG des AG. Une chose est sûre, c'est que la structuration avance et que la détermination est au plus haut. Le grand débat, justement, dans la région, c'est parti, majoritairement à l'initiative des maires. Dans le bassin minier, c'est Givenchy Angoël qui a dégainé le premier, 40 participants et participantes, et au menu, selon la Voix du Nord, les voitures électriques, la taxation des robots, la chasse à la fraude fiscale et le vote obligatoire. Concernant ce grand débat, nous avons été amusés par le chapeau d'un article du Monde diplomatique de ce mois de février. L'article a pour titre « Lutte de classe en France » et commence ainsi. Au mouvement des Gilets jaunes, le chef de l'État français a répondu en lançant un grand débat national. Ce genre d'exercice postule que les conflits sociaux s'expliquent par des problèmes de communication entre le pouvoir et ses opposants, plutôt que par des antagonismes fondamentaux, une hypothèse hasardeuse. On vous invite à lire cet article paru dans le dernier numéro du Monde diplomatique. Dans l'actualité également, c'est le rapport du Haut Comité à l'égalité qui est paru le 17 janvier dernier et qui fait un premier état des lieux du sexisme en France. Il est intitulé « Lutter contre une tolérance sociale qui persiste ». Il est à noter également que pour le racisme, la xénophobie ou l'antisémitisme, des rapports se font tous les ans depuis 28 ans. Il aura donc fallu MeToo et Balance ton porc pour qu'on mesure l'étendue du sexisme en France. Alors, outre des chiffres, il donne également une définition. Le sexisme est défini comme une idéologie qui repose d'une part sur le postulat de l'infériorité des femmes par les hommes, par rapport aux hommes, et d'autre part, c'est un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence au plus grave, remarques, représentations stéréotypées, suroccupation de l'espace public, jusqu'à entrave à l'avortement, viol ou meurtre. C'est une idéologie dangereuse, précise ce rapport, par ses manifestations et ses effets. Il produit de nombreux dégâts sur les femmes, comme par exemple un sentiment de dévalorisation, la modification de leur comportement avec l'adoption de stratégies d'évitement, une dégradation de leur santé physique et psychique. In fine, le sexisme, c'est la source de toutes les inégalités hommes-femmes ou femmes-hommes bien connues aujourd'hui. Le sexisme est toujours d'actualité, très répandu et pourtant encore peu condamné. 4 femmes sur 10 indiquent avoir été dernièrement victimes d'une injustice ou d'une humiliation du fait d'être une femme. Après, à peine 3% des actes sexistes qui tombent sous le coup de la loi font l'objet d'une plainte et seulement une plainte sur 5 conduit à une condamnation. 2 thématiques d'analyse, l'humour et les injures, pour pouvoir justement mesurer le sexisme au quotidien. Le sexisme est un ressort fréquent de l'humour. L'analyse réalisée par le HCE sur un échantillon de sketchs montre que plus de la moitié d'entre eux mobilisent au moins un ressort sexiste. L'on y rit souvent des femmes, mais sans les femmes. Et l'humour sexiste est fréquent. Presque 40% des Français, Françaises ont entendu au cours de l'année 2017 au moins une blague sexiste. Les injures sexistes sont elles aussi une violence du quotidien que les femmes signalent peu à la police et que la justice condamne très très rarement. En 2017, 1,2 million de femmes ont fait l'objet d'une injure sexiste, soit près d'une femme sur 20. Dans 64% des cas, l'insulte contient les mots « salope » 27%, « pute » 21% ou « connasse » 16%. Bien que passible d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, seuls 3% de ces injures font l'objet d'une plainte. En 2017, seules 4 condamnations pour injures sexistes ont été prononcées. Voilà, je m'arrête là sur ce premier rapport sur le sexisme. À partir de ce constat, il propose pourtant une série de recommandations pour lutter contre le sexisme. Voilà, c'est bien le but. Même s'il s'agit ici surtout d'un constat qui révèle l'ampleur des dégâts et du travail à accomplir, on en reparlera sûrement à Micro Rebelle Hebdo. Je vais maintenant laisser la parole à Jonathan pour un agenda de l'actualité sociale et culturelle.
Alors, le samedi 2 février, il y aura un débat au LAG intitulé « On arrête tout, qu'est-ce qu'on redémarre ?». Ce débat aura pour thématique le pouvoir d'achat, thématique intéressante car plusieurs produits de notre quotidien verront leur prix augmenter aujourd'hui, donc le 1er février. Les horaires sont de 10h à 12h30, vous pouvez amener vos ordinateurs car à 14h, après le débat, il y aura la foire d'Astal des informations. Alors, la foire d'Astal, des informaticiens seront sur place pour booster vos ordinateurs grâce à des logiciels libres. Le mardi 5 février, grève et manifestation. Après 3 mois de révolte des Gilets jaunes, l'appel à la grève pour le 5 février doit être l'occasion de tisser plus de solidarité entre Gilets jaunes, Gilets rouges, roses, verts ou autres, et d'augmenter la pression sur Macron et les patrons pour les revendications de justice sociale, d'égalité et de démocratie. Petite parenthèse, il faut savoir que les gilets rouges, c'est la CGT et non les foulards rouges. La meilleure défense, c'est l'attaque. À partir du 5 février, il est possible de conjuguer toutes les énergies par-delà les divergences pour bloquer le pays et faire plier Macron. Grève et blocage sont complémentaires, comme la couleur des différents gilets, car quelle que soit leur couleur, sur les ronds-points ou dans les entreprises, ils sont sur les épaules de citoyens et citoyennes révoltés. Dans la région, la manifestation régionale est prévue à Lille, Porte de Paris, à 14h30. Même jour, une réunion publique à l'initiative du collectif citoyen Bassin Minier pour le climat, au LAG de 18h30 à 20h30. C'est un sujet important car derrière tout notre confort, nous détruisons l'environnement qui nous entoure et nous polluons nos océans. Un geste simple pour une planète plus saine, jetez vos détritus à la poubelle et pensez au tri. Toujours le mardi 5 février, à 19h, il y aura un ciné-débat intitulé « Indignez-vous ». En 2011, suite à la parution du livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, membre du Conseil National de la Résistance, des manifestations pacifiques ont démarré en Espagne et se sont répandues dans toute l'Europe et dans le monde, un petit peu comme les Gilets jaunes. Cette réaction populaire à la crise économique de 2008 et aux abus du libéralisme a-t-elle eu des effets? Le mouvement Nuit Debout ou celui des Gilets jaunes justement actuellement s'inscrivent-ils dans la continuité? Quelle indignation aujourd'hui? Débattons-en. Projection suivie d'un débat, le film proposé est réalisé par Tony Gatliff. Entrée libre, possibilité de participer aux frais sur réservation par mail collectifcitoyenbully@gmail.com. Enfin, toujours le mardi 5 février, les données scientifiques du réchauffement climatique. Une conférence par Jean-Louis Dufresne, climatologue. Rapport après rapport, le GIEC tire la sonnette d'alarme. La planète se réchauffe, les activités humaines en sont la cause. Chacun peut en voir les conséquences. On pourra bientôt bronzer en hiver. Face aux climato-sceptiques qui n'en désarment pas et arrivent même au pouvoir, États-Unis, Brésil par exemple, les citoyens du monde entier se mobilisent entre la conférence de Paris en 2015 et celle de Pologne en 2018. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué. Avec Jean-Louis Dufresne, nous verrons ce qui a évolué sur le plan scientifique depuis le rapport du GIEC de 2013 et 2014 et les accords de Paris. Une rencontre importante pour comprendre l'urgence climatique à 19h à la Maison des Sociétés à Arras. Enfin, pour clôturer cet agenda, le jeudi 7 février, manger sain et local à Loison-sous-Lens. Terre de Liens a le plaisir de vous inviter à sa réunion d'information sur l'installation de Jonathan Bétermier en maraîchage biologique, accueilli par la mairie de Loison-sous-Lens. Ils vous présenteront l'association et le projet pour conclure autour d'un verre. Ce projet, c'est la création d'une activité en maraîchage biologique, la possibilité de manger sain et local. L'après, l'approvisionnement de la cantine scolaire, la protection de nos terres, de paysages et de la ressource en eau. Cette terre sera acquise grâce à vos dons de 18h à 20h, salle Cuvelier, rue Raymond Spa, Loison-sous-Lens.
Eh bien, merci Jonathan. On va maintenant passer à la revue de presse. Alors, c'est habituellement Lucien qui s'en charge, et qui aussi habituellement présente cette émission. Il ne pouvait pas être là ce soir. On lui fait un petit coucou s'il nous écoute. C'est quand même lui qui a préparé la revue de presse, mais c'est moi qui vais vous la raconter. Dans l'avenir de l'Artois, tout d'abord, un nouveau Lidl à Liévin. Le journal relate sur une pleine page les métamorphoses des magasins Lidl au travers de l'exemple du magasin de Liévin en reconstruction à la place de l'ancien dépôt de bus Tadao. Le journal décrit de manière extrêmement positive ce magasin, flambant neuf, aéré, lumineux, une surface de vente doublée, des produits mieux mis en valeur. Et le journal donne la parole à la direction régionale de Lidl en interviewant le responsable immobilier pour cette direction régionale. On s'en doute, ce représentant du patronat Lidl ne se prive pas de mettre en valeur le magasin. Un supermarché de proximité à assortiment sélectionné, la meilleure qualité au meilleur prix, la part belle faite aux espaces de vente. Et le journal conclut en évoquant ces évolutions qui prennent le visage de la modernité. Ce ton pseudo-journalistique ne dit pas tout et nous abuse. L'avenir de l'Artois propose une tribune au patronat de la grande distribution. C'est dommage, c'est même très regrettable. On peut aussi se poser la question, pourquoi l'avenir de l'Artois ne donne-t-il pas la parole aux travailleurs et travailleuses de Lidl ? On ne connaît malheureusement que trop bien la réponse. Il est impossible aux salariés de cette enseigne de s'exprimer, tant ils et elles vivent sous la pression d'un management de combat au sein de leur entreprise, avec pression et intimidation. Rappelons notamment le cas de cet agent de maîtrise de Lidl qui s'est donné la mort sur son lieu de travail en 2015. À l'occasion de ce suicide, la famille avait été consternée par l'absence de réaction de la direction de Lidl. Dans l'avenir de l'Artois, toujours, à Arnes, bientôt des caméras autour des écoles. Décidément, en ces temps de folie sécuritaire, l'heure est à la surenchère. Dommage qu'une ville ouvrière comme Arnes ait décidé d'y succomber. Ainsi, selon le journal, depuis l'année dernière, 27 caméras de vidéosurveillance ont été installées sur quelques sites communaux. Une deuxième vague de caméras va débarquer dans le courant de l'année. Et le journal cite le maire. C'est ainsi que j'entends poursuivre notre action en termes de vidéoprotection, en étendant cette année les dispositifs à tous les bâtiments scolaires et quelques bâtiments communaux. C'est vrai que c'est politiquement plus correct de parler de vidéoprotection et non de vidéosurveillance. Je ne sais pas si le maire de Arnes appréciera le parallèle, mais nous avons relevé dans La Voix du Nord un article qui évoque les perspectives annoncées pas très loin par le Rassemblement National d'Hélin Beaumont. Le nombre de caméras de surveillance va augmenter. De 132 actuellement, on arrivera à un total de 126 en fin d'année. Le centre de supervision urbain situé dans les locaux de la police municipale qui centralise les images va ouvrir prochainement. Qu'une ville socialiste et une ville Rassemblement National la même semaine prennent toutes les deux des dispositions similaires en matière de surveillance de leur population ne pouvait pas manquer de nous interpeller sur l'état de la gauche sur notre territoire. Dans la Voix du Nord, à la cale, la question de l'accueil des gens du voyage divise. C'est malheureusement un nouvel aspect qui caractérise ce que nous appelions tout à l'heure l'état de la gauche sur notre territoire. La cale, communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui regroupe 36 communes, est incapable de se mettre d'accord pour la mise en œuvre de l'aire de grand passage pour les gens du voyage. Le journal cite un élu. Il faut être pragmatique et réaliste. Pour réaliser tout cela, il faut du temps. L'échéance des 2 ans qui nous est imposée est intenable. La communauté de communes voisines d'Hénin-Carvin a déjà émis un avis défavorable. C'est ce que nous vous proposons de faire pour avoir une position cohérente. Pourtant, toujours selon La Voix du Nord, qui cite un autre élu, la loi Besson date de 2010, l'ancien schéma de 2012. On a eu largement le temps de se mettre en conformité avec la loi pour accueillir au mieux nos concitoyens. Il faut être plus ambitieux pour le logement et la sédentarisation. Il faut rencontrer les bailleurs, sinon le préfet va nous l'imposer. Dans les faits, autrement dit, sur le terrain, le bassin minier voit régulièrement des expulsions de gens du voyage, chassés d'une ville à une autre, un peu comme le sketch de la patate chaude. Sauf que c'est beaucoup moins drôle. Les gens du voyage, on préfère les voir dans la ville d'à côté de chez soi. Dans La Voix du Nord et Liberté Hebdo, la loi anti-casseurs. La Voix du Nord, tout d'abord, évoque le contenu de cette loi en discussion actuellement au Parlement. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations dans le cadre de la proposition de loi Les Républicains anti-casseurs. Ce nouveau délit de dissimulation volontaire, totalement ou partiellement, sera assorti d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le journal donne à ce sujet la parole à Charles de Courson, député UDI de la Marne, fils et petit-fils de résistants, qui lance un avertissement à la majorité. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation ou de manifester au motif qu'il y a une présomption, des raisons sérieuses de penser, que son comportement constitue une menace particulièrement grave pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy, a-t-il lancé. Liberté Hebdo, de son côté, trace un parallèle entre le ministre de l'Intérieur, à l'origine de cette proposition de loi liberticide, et l'extrême droite de Marine Le Pen. Je cite Liberté Hebdo, « Il est de bon ton pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes de s'appesantir dans les médias sur le soutien de Marine Le Pen et du Rassemblement National. S'il y avait besoin de prouver que ce soutien est de pur opportunisme et trouve assez vite ses limites, il suffit de noter que Marine Le Pen et les députés RN ont fait savoir qu'ils voteraient la loi anti-casseurs prévue par le gouvernement. Alors que même des députés de la majorité ont refusé l'article 1 de cette loi qui prévoit un périmètre de sécurité et des fouilles systématiques lors des manifestations, Castaner pourra toujours compter, lui, à l'Assemblée, sur le soutien de l'extrême droite. On mesure là toute l'hypocrisie des uns et des autres. Les Gilets jaunes, dont les revendications tournent tout d'abord autour de la justice sociale et non de l'immigration, gênent ceux qui, au fond, se ressemblent. Dans La Voix du Nord, éliminer les djihadistes. Avec un point d'interrogation. Le journal revient sur la sortie du député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Il faut éliminer les djihadistes encore détenus en Irak et en Syrie plutôt que de les faire revenir en France. Au lendemain de sa sortie sur la chaîne LCP, le jeune député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, assume et maintient sa position, malgré l'avalanche de réactions outrées qu'elle lui a valu de la part de la majorité et des députés de gauche. Il faut arrêter l'hypocrisie. Je sais que j'ai dit quelque chose qu'on ne dit pas habituellement, nous confie-t-il, ou confie-t-il à la rédaction de La Voix du Nord, mais ces opérations d'élimination ciblée sont de notoriété publique. Voilà donc de retour la France des barbous et des coups tordus dans la bouche d'un parlementaire. C'est sans doute ça, la libération de la parole, particulièrement en vogue actuellement. La Voix du Nord précise que c'est ce député n'est pas un cas isolé. Le parti LR a apporté son soutien aux jeunes députés calaisiens. Et le journal rappelle que de tels propos ne sont pas l'apanage de la droite ou de l'extrême droite. La ministre de la Défense, Florence Parly, sur Europe 1, le 15 octobre 2017, au moment de la chute de Raqqa, une ville de Syrie, « Si les djihadistes périssent, c'est tant mieux. et pour ceux qui survivraient, la ministre parlait de les neutraliser, version politiquement correcte d'éliminer. La question du retour de ces terroristes en puissance a été évoquée hier aux questions au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirmant « Quand il s'agit de combattants français, ils sont français, mais ils combattent la France, donc ce sont nos ennemis. Il faut dire les choses clairement. Pour leur sort, par contre, c'est beaucoup moins clair. » Enfin, un article paru le 25 janvier sur le webmédia Le Vent se lève, intitulé « L'Union européenne, l'autre ennemi des Gilets jaunes », écrit par Eugène Favier Baron. Il y est question de l'influence de la Commission européenne sur la réponse gouvernementale au mouvement social des Gilets jaunes. Le risque que font peser les Gilets jaunes sur l'équilibre budgétaire français n'a pas échappé à la vigilance comptable de Bruxelles, qui a tôt fait d'adresser des remontrances à Emmanuel Macron, jugé trop conciliant à l'égard du mouvement. C'est ainsi que le président jupitérien se retrouve piégé dans un étau entre contestation sociale dans son pays et pression budgétaire en Europe. Ceci pour l'introduction à l'article. Voici quelques extraits du rapport concernant la France pour les prévisions de l'année 2018-2019 que nous rapporte l'auteur. Les GOP, grandes orientations de la politique économique, recommande que la France s'attache sur la période 2018-2019 à veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,4% en 2019. Poursuivre les réformes du système d'enseignement et de formation professionnelle, à renforcer son adéquation au marché du travail, en supprimant les impôts inefficaces et en réduisant les impôts sur la production prélevés sur les entreprises. Réduire la charge réglementaire et administrative afin de renforcer la concurrence dans le secteur des services et de favoriser la croissance des entreprises. En regard de la politique effectivement menée, on voit ici comment ces recommandations conditionnent l'action gouvernementale. A l'inverse, en toile de fond du mouvement des Gilets jaunes, se situe le désir de retrouver un pouvoir de décision, de recentrage du politique sur le territoire, de ramener la question politique à un niveau local pour plus de démocratie. Des désirs qui se manifestent parfois de façon ambiguë, avec l'imaginaire de la Révolution française redéployé, les Marseillaises entonnées en chœur, la question du peuple français. Ce mouvement social fait donc apparaître un conflit d'intérêts entre, je cite, les revendications populaires pour des services publics efficaces plutôt que rentables, un système de redistribution réellement solidaire, des institutions réellement démocratiques ou encore un système fiscal équitable et l'agenda ultra-libéral du projet européen. Autre antagonisme, le renouveau du lien social sur les ronds-points ou les zones de blocage et la volonté d'uniformisation des normes marchandes voulues par le marché commun. Enfin, entre la mesure phare qu'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et le fait qu'au niveau européen, ouvrez les guillemets, le gros du levier législatif de l'Union européenne se trouve en effet entre les mains d'organes non élus, comme la Commission européenne, où des ministres peuvent participer à des procédures de révision des institutions européennes, ainsi qu'assurer le contrôle des propositions qui sont émises par le Parlement. En plus d'institutionnaliser une collusion du législatif et de l'exécutif, cet organigramme des pouvoirs constituant se passe de tout contrôle populaire. Fin de citation. Ainsi, entre euroscepticisme électoraliste et une réelle fronde anti-européenne jaune fluo, le président français a de plus en plus de mal à justifier sa politique et à cacher qu'elle est conditionnée par l'Europe. Ce qui fera plaisir aux Gilets jaunes est de constater la double faiblesse du pouvoir de Macron sur la scène nationale et sur la scène européenne, bien qu'ici l'analyse présentée par Eugène Favier Baron dans Le Vent se lève montre aussi qu'en visant un président dont le seul pouvoir est la communication, on se trompe certainement de cible. Cet article montre également mieux que je n'ai pu le faire ici les implications sur la scène européenne entre l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le jeu de dupes entre ces différents pays. On va maintenant faire une petite pause musicale. Alors, le groupe s'appelle Dockerman and the Turkeying Fela. C'est un titre très jazz éthiopien, vraiment cool. Et le titre s'appelle Dusk. Thank you.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. On parle aussi souvent d'alternatives politiques et économiques. Ça va être le cas juste après. Nous l'avons dit dans l'agenda, il y aura le jeudi 7 février une réunion d'information organisée par l'association Terre de Liens sur l'installation en maraîchage biologique de Jonathan Bétermier à Loison-sous-Lens. Alors tout le monde est convié à la mairie de Loison-sous-Lens, où seront présentés l'association et le projet. Je ne suis pas sûr que ce soit à la mairie, mais c'est dit dans le reportage, alors vérifiez les informations. Celui-ci consiste dans la création d'une activité en maraîchage bio, la possibilité de manger sain et local, l'approvisionnement de la cantine scolaire, la protection des terres, des paysages, de la ressource en eau. Cette terre sera acquise grâce aux dons. Alors pour en parler, nous avons contacté aujourd'hui par téléphone Jérémy Fitoussi, animateur de l'association Terre de Liens. On vous retransmet tout de suite cette entrevue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire la petite histoire de l'association Terre de Liens ?
Terre de Liens, c'est un mouvement, parce que c'est plus qu'une association. C'est un mouvement qui est né en 2003, qui a été lancé par d'abord une association nationale. Et ensuite, il y a différentes associations qui se sont créées dans les régions. Et au niveau du Nord-Pas-de-Calais, on fête cette année les 10 ans de l'association Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a aujourd'hui des associations dans les différentes régions de France, et il y a également au niveau de Terre de Liens une entreprise de finances solidaires qui s'appelle la Foncière Terre de Liens, qui collecte de l'épargne, et une fondation qui s'appelle la Fondation Terre de Liens, et qui collecte du don.
Oui, parce que l'objet c'est principalement de faciliter l'installation des paysans, des agriculteurs bio, en favorisant l'accès à la terre.
Oui, c'est ça. Il y a deux constats qui ont été à l'origine de la création de Terre de Liens. C'est effectivement ce premier. C'est la difficulté pour des futures paysannes ou paysans d'accéder à la terre, en particulier pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui ne reprennent pas la ferme de leurs parents, par exemple. Et le deuxième constat, c'est aussi le constat de la réduction de la surface de terres agricoles à l'échelle française, mais plus largement, également, et du coup la nécessité de lutter pour préserver des terres agricoles et éviter leur artificialisation.
On comprend que justement ouais, les terres agricoles diminuent parce que le foncier c'est l'objet d'une lutte acharnée, notamment autour des villes, alors que paradoxalement c'est là où le besoin de consommation alimentaire est le plus important. Donc vous, quels sont les moyens, les outils dont vous vous dotez pour lutter contre d'autres forces qui font de la terre une marchandise ?
On mène trois actions au niveau de l'association. Une première, c'est de sensibiliser le grand public et de mobiliser les habitants localement sur leur territoire pour déjà se rendre compte de l'enjeu de la terre agricole pour leur alimentation, mais aussi pour leur environnement, pour les paysages, etc., plus largement que la question de la production alimentaire. Donc ça, c'est un premier aspect, l'aspect, on va dire, citoyen. Il y a un deuxième aspect, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc accompagner des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture pour trouver de la terre. Donc ça, c'est l'accompagnement de futurs paysannes et paysans. Et puis, il y a un troisième levier d'action, c'est auprès des collectivités locales, donc des élus et des techniciens dans les mairies, à l'échelle d'agglomérations ou de départements ou de régions plus largement. Donc c'est un travail de plaidoyer pour protéger les terres agricoles et pour permettre des installations plus nombreuses sur leur territoire.
Et dans ce cadre-là, c'est quoi les difficultés, les obstacles les plus difficiles à surmonter ? J'entends par là, je pense justement à l'agrandissement des zones urbaines, donc ces zones commerciales, avec là des enjeux économiques importants et des entreprises qui ont des moyens pour s'acheter ces terres, contrairement aux paysans, ou est-ce que c'est la volonté politique, ou plutôt le manque de volonté politique ?
De toute façon, des entreprises qui voudraient acheter des terres pour construire, quel que soit ce qu'elles veulent construire, ne pourraient pas le faire si ces terres n'étaient pas classées dans le cadre de documents d'urbanisme, donc de plans de classement, on va dire, du foncier, entre différentes zones, des zones définies comme naturelles, même si elles peuvent être agricoles, des zones agricoles, et des zones urbaines ou des zones à urbaniser. Et donc c'est effectivement le politique qui, même si il peut être largement appuyé ou orienté par les questions économiques, mais c'est le politique qui va définir ces zonages. Et une fois que ces zonages sont définis, il faut repasser par de nombreux processus pour pouvoir les modifier et les faire évoluer. Donc c'est effectivement d'abord le politique qui a la main sur la manière dont est artificialisé, on va dire, le territoire.
L'autre volet, on va dire, de l'action de l'association, ou plutôt une de ses composantes, c'est la création de groupes locaux, c'est-à-dire une volonté d'impliquer directement les citoyens dans la démarche de réappropriation de la terre pour favoriser la paysannerie ou l'agriculture locale. Alors ces personnes, quel est leur rôle en fait?
Donc aujourd'hui, à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, on a 6 groupes locaux de bénévoles. En fait, ce sont des adhérents de l'association Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais qui souhaitent s'investir localement sur leur territoire et qui vont agir sur différents aspects. Donc ça peut être organiser des actions de sensibilisation, tenir des stands, organiser des conférences débats, des projections débats. Donc ça, c'est l'aspect plutôt sensibilisation, mobilisation. Il y a un aspect d'accompagnement des porteurs de projets ou des agriculteurs en fin de carrière pour transmettre des fermes. Et puis, il y a aussi l'action auprès des politiques publiques, donc prendre rendez-vous avec ces élus, participer aux réunions de concertation sur justement les documents d'urbanisme, par exemple, ou rencontrer les différents maires ou présidents d'agglos ou de communautés de communes pour justement les pousser à aller plus loin dans leur politique en faveur des installations agricoles et de la préservation des terres agricoles.
Ça fait un peu le lien entre l'implantation possible ou la sauvegarde des terres agricoles et la pression citoyenne qui peut justement agir sur ces volontés politiques.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un enjeu fort de Terre de Liens. C'est l'objet de départ, hein. C'est vraiment que les habitants localement, là où ils sont, peuvent se réapproprier cet enjeu-là, même quand ils sont pas du monde agricole, même quand ils sont pas agriculteurs, simplement en tant qu'habitants, en tant que mangeurs localement, et de pouvoir faire pression sur leurs décideurs politiques pour faire évoluer les choses sur leur territoire, et puis après, du coup, à une échelle plus large, évidemment, jusqu'au niveau français, jusqu'au niveau des lois voté au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que localement, il y a ce rôle-là, et c'est un rôle qui est efficace et qui trouve un écho dans la mesure où suffisamment de personnes s'impliquent localement.
Alors, je précise ici que l'enjeu n'est pas que de proposer une alternative alimentaire à la consommation industrielle, mais aussi de pallier à une crise environnementale et agricole, en prenant le problème à la racine, la terre. Pour prendre un peu la mesure de l'évolution de l'agriculture, je donne quelques chiffres qui sont sur votre site. Plus de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, notamment au profit d'exploitations agro-industrielles toujours plus grandes. 1300 hectares d'espaces agricoles et naturels sont recouverts de béton et de bitume chaque semaine. Les prix de la terre ont bondi de presque 40% en 10 ans, obligeant les jeunes agriculteurs et agricultrices à s'endetter à vie pour acheter leurs parcelles. Un peu plus de 6,6% des surfaces agricoles sont cultivées en mode biologique en 2017, alors que la France s'est engagée pour 20% des terres en bio en 2020. Donc, est-ce que l'association Terre de Liens part aussi de ce constat de crise?
Oui, c'est sûr que c'est effectivement ce constat qui pousse les différents membres de Terre de Liens à agir. Et effectivement, alors, Terre de Liens agit, fait sa part, on va dire, ne peut pas tout chambouler à son échelle, mais c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on agit. Après, on a parlé de la partie artificialisation. Il faut peut-être aussi faire une remarque, parce que bon, c'est vrai que dans des secteurs très urbanisés comme nous en région, on a beaucoup cette pression de l'artificialisation. Mais il faut voir aussi que un gros problème de l'agriculture, c'est effectivement la disparition du nombre de paysans, et cette disparition, elle n'est pas due à l'artificialisation, ou alors très peu, elle est surtout due au problème de revenus que rencontrent les agriculteurs, à la difficulté de transmettre des fermes, et au fait que les agriculteurs se font concurrence les uns les autres pour essayer de récupérer le maximum de terres pour pouvoir continuer à grandir, puisque c'est un peu le modèle qui est vendu aujourd'hui pour continuer à pouvoir exister en tant qu'agriculteur. C'est ça aussi qui fait qu'il y a une très grosse difficulté pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole pour trouver des terres pour démarrer une activité agricole.
Donc ça veut dire qu'au-delà du fait de pouvoir disposer de ces terres et de les sauvegarder, il y a cet aspect-là aussi de proposer une agriculture qui permette par exemple un revenu...
Qui puisse se transmettre, qui ne soit pas des usines. C'est sûr qu'on s'inscrit dans cette logique-là et également sur les questions environnementales. On a pratiquement toutes les personnes qui passent par Terre de Liens, qui souhaitent s'installer, ont pratiquement toutes un projet en agriculture biologique.
Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer le fait que la terre soit source d'enjeux, mais d'un point de vue peut-être plus sociétal, une source d'enjeux aussi important, parce que bon, on s'en rend peut-être moins compte, parce que beaucoup de gens vivent hors sol, dans les zones urbaines, et on se rappelle de moins en moins que la terre est source de liens. Alors je m'inspire un peu ici du nom de l'association. Alors c'est quoi ces liens et qu'est-ce que ça veut dire, des choses telles que libérer les terres agricoles ou réhabiliter leur statut de bien commun?
Alors effectivement, il y a une réflexion de Terre de Liens sur la question de la terre comme un bien commun. On parle souvent de bien commun pour l'eau ou pour l'air, par exemple, en disant que c'est quelque chose qui ne peut pas être dans le champ de la propriété privée individuelle. Et la réflexion est poussée sur la question de la terre agricole, de la terre nourricière, puisque effectivement, on a besoin de ces terres pour pouvoir produire de la nourriture. Et voilà, il y a une obligation à avoir des terres agricoles pour produire de la nourriture. Et donc une réflexion sur pourquoi la terre agricole est aujourd'hui avec ce modèle de propriété privée, en général individuelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle possible de mise en commun de ces terres agricoles? C'est ce qui est expérimenté à petite échelle au niveau de Terre de Liens, la possibilité de faire des acquisitions de terres de manière collective, en mettant en commun un ensemble de fonds, et également d'inscrire ça sur du très long terme, c'est-à-dire que la foncière et la fondation Terre de Liens, par exemple, qui collectent de l'épargne et du don, garantit le fait que les terres ne repartiront jamais dans le marché, et donc sortent définitivement de la spéculation. Donc c'est une expérimentation pour montrer qu'il est possible d'agir dans un autre, vers une autre voie, et que des personnes nombreuses sont prêtes à s'engager dans ce sens-là.
Je recentre un petit peu l'échange au niveau du bassin minier. C'est quoi le constat ici au niveau de l'implantation d'agriculture biologique?
Alors, dans le bassin minier, comme à peu près partout en région, on est avec un taux d'agriculteurs bio extrêmement bas. Pas beaucoup de renouvellement des générations. Le constat est quand même assez noir, même voilà, à l'échelle régionale, on va dire, hein, au sens large. On n'est vraiment pas dans une région très dynamique de ce point de vue-là, ou en tout cas en retard par rapport à d'autres zones en France. Ça s'explique beaucoup par le système agricole de la région, on est sur des terres riches, avec une agriculture productive depuis longtemps, et donc des modèles assez spécialisés, assez liés à l'agro-industrie, et du coup une transition qui se fait plus difficilement vers des pratiques environnementales et vers l'agriculture biologique.
Concernant la question de la spéculation foncière, est-ce que elle est d'autant plus renforcée du fait que ce soit un territoire très agro-industriel?
Effectivement, on fait partie des régions de France les plus chères sur le foncier agricole, avec des augmentations très importantes. Donc là-dessus, effectivement, on n'est pas aidé non plus de ce côté-là, mais c'est la conséquence aussi du type d'agriculture, du modèle agricole et de ses spécialisations, on va dire, en région, qui fait qu'on a des prix des terres extrêmement élevés. Même si ça n'explique pas tout sur les problématiques d'installation, parce qu'il y a aussi une problématique liée à la location de terres. On est une région avec beaucoup... Les agriculteurs sont essentiellement locataires, auprès de très nombreux propriétaires en général. Et les échanges de baux entre un locataire sortant et un locataire entrant sont aussi une source d'arrangement, on va dire, entre les agriculteurs, qui excluent des nouveaux entrants ou des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Et qui également entraînent aussi des échanges, des sommes d'argent très importantes qu'il est difficile de sortir pour quelqu'un qui souhaite s'installer.
Il y a actuellement un projet de création d'une zone maraîchère au cœur de la cité 8 à Loison-sous-Lens. Donc c'est l'implantation d'un jeune maraîcher, nouvel agriculteur, qui s'appelle Jonathan Béternier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet ?
Oui, du coup, c'est en fait la commune de Loison-sous-Lens qui a mené une réflexion un peu plus large au moment d'un projet d'aménagement au niveau de la cité 8. Voilà, l'aménagement d'un nouveau quartier avec une réflexion sur le paysage, etc. Et également sur la question alimentaire. Et donc, il y a une partie de la zone prévue qui est réservée, qui était réservée et qui sera réservée, du coup, pour une production maraîchère, avec l'idée aussi de pouvoir, comme ça, alimenter les habitants de Loison-sous-Lens en direct et également de pouvoir participer à approvisionner la cantine de l'école, qui se trouve juste à proximité. Il y a aujourd'hui 2,3 hectares qui vont être à la zone maraîchère. Et du coup, le projet est accompagné par Terre de Liens depuis déjà quelques temps. On accompagne la commune sur cette idée et sur sa réalisation. Et également, on va solliciter du coup la Fondation Terre de Liens qui va acheter la parcelle pour pouvoir ensuite la louer à Jonathan. Donc on a lancé là depuis très peu de temps un appel à dons pour pouvoir collecter de l'argent pour acheter cette terre.
Donc c'est un projet qui est né de la d'une volonté politique locale, si j'ai bien compris. Et c'est eux qui vous ont contacté pour réussir à mettre en place ce...
Tout à fait. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de Lens et des environs, on n'a pas de groupe local de bénévoles actifs, en tout cas pas encore, peut-être bientôt. Et du coup, là, il s'agit effectivement d'une initiative de la commune qui nous a contactés en nous présentant ce projet. Et donc, on a accompagné dans les différentes étapes de ce projet pour arriver à, actuellement, du coup, cette collecte qui est lancée et l'installation de Jonathan qui va arriver dans les prochaines semaines, mois, le temps de s'installer sur la zone et de l'équiper pour lancer sa production.
C'est commun qu'une municipalité se lance dans ce genre de projet ?
Alors, c'est quand même relativement rare. C'est clair, c'est relativement rare. Nous, on accompagne quelques, soit communes, soit plus généralement des intercommunalités, donc communautés de communes ou agglomérations. Mais là, c'est vrai que c'est relativement rare qu'une commune ait une réflexion globale aussi qui parte de la cantine, des aménagements paysagers, des cheminements doux, on va dire, ou piétons, etc. Et de la question agricole en même temps. C'est vrai que articuler toutes ces dimensions, c'est relativement rare aujourd'hui. Mais là, c'est tant mieux. On a une commune motivée et du coup, on peut les accompagner au mieux pour permettre une installation dans de bonnes conditions de Jonathan prochainement.
Je reviens sur l'un des enjeux aussi concernant l'installation sur cette parcelle, c'est l'eau. Parce que la parcelle est située sur une aire de captation d'eau potable. Et donc, est-ce que tu penses que ça favorise justement l'aboutissement de ce projet ? Est-ce que ça faisait partie de la réflexion initiale ?
Alors ça, je me souviens plus si la commune avait aussi cette réflexion au départ, sachant que la gestion de l'eau potable est plutôt une question qui est gérée à l'échelle de l'agglomération. Mais c'est sûr que, objectivement, le fait d'avoir une parcelle située sur une aire d'alimentation de captage en eau potable, et le fait que cette parcelle va devenir bio, puisqu'elle était en agriculture conventionnelle, en grande culture conventionnelle jusqu'à l'été dernier, le fait qu'elle va être cultivée en bio va permettre donc de limiter à l'échelle de cette parcelle l'utilisation de produits chimiques de synthèse, engrais ou pesticides de synthèse, et du coup ça va participer à sa mesure à la protection de la ressource en eau potable. Et donc ça, c'est sûr que c'est un deuxième enjeu ou un deuxième bien commun qui est protégé par la même occasion.
Il y a aussi la question alimentaire, ce qui se pose, parce que c'est prédéfini également que une partie de la production sera réservée pour la cantine scolaire qui se trouve à deux pas de la parcelle, tu l'as dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est comment dire, une petite révolution. Moi, je me rappelle de la cantine, on était quand même loin de ça.
Oui, c'est clair que c'est une révolution. Après, c'est une révolution qui va doucement, puisqu'effectivement, il faut que les communes soient gestionnaires de leur cantine, ce qui n'est pas souvent le cas, ou en tout cas pas énormément le cas, et qu'en plus, cette cantine soit équipée pour travailler des produits bruts et pas simplement avec des ouvre-boîtes ou des congélateurs. Et donc ça, c'est aussi une réflexion qui a été menée en amont de la construction de la cantine pour que permettre à la cuisine de cette cantine de pouvoir utiliser des produits bruts, de pouvoir les travailler, les transformer et les cuisiner. Si on part du produit brut, du produit frais qui vient d'être cueilli à quelques dizaines de mètres de là, forcément, ce sera sans doute meilleur dans l'assiette qu'un produit congelé ou en boîte.
Donc, jeudi 7 février prochain, il y aura une réunion d'information qui permettra de présenter l'association et le projet. Est-ce que tu peux nous en parler ?
C'est à la salle Cuvelier, rue Raymond Spa, à Loison-sous-Lens, à partir de 18h, donc de 18 à 20h. Donc, on sera accueilli par la commune. Et donc, je serai présent avec Jonathan aussi, qui va présenter un peu plus en détail son projet agricole, parce qu'on n'en a pas trop parlé là. Bon, on va représenter donc ce qu'on fait au niveau de l'association, le lancement de la collecte de dons. Et Jonathan va présenter son projet agricole. Et voilà, ça permettra aussi d'avoir un échange avec les habitants. Et la commune aussi présentera comment ce projet s'inscrit dans une réflexion plus large à l'échelle de la Cité 8.
Voilà, et pourquoi pas, ça pourrait être le début pour la création d'un groupe local de personnes investies sur ce genre de thématique. Est-ce que tu peux, pour ceux qui pourraient pas venir, par exemple, nous donner des liens, notamment pour l'association, ou alors comment ça se passe si quelqu'un veut faire un don ?
Toutes les infos concernant Terre de Liens, c'est possible de les retrouver sur Internet. Donc le site, c'est terredeliens.org. Donc Terre au singulier et Liens au pluriel. Là, on tombe sur le site national de Terre de Liens et on peut, sur le site, cliquer sur la région Nord-Pas-de-Calais, ce qui permet d'accéder à la présentation des différentes fermes qui ont été achetées ou qui vont être achetées par la foncière ou la fondation Terre de Liens, et donc de pouvoir faire un don en ligne ou d'avoir l'adresse pour pouvoir envoyer un chèque à la fondation Terre de Liens. Et on peut également retrouver les coordonnées de l'association Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais pour avoir plus d'infos en nous appelant ou en nous envoyant un mail. Le mail de l'association, c'est npdc, comme Nord-Pas-de-Calais, @terredeliens.org.
C'était Jérémy Fitoussi, animateur de l'association Terre de Liens. Et voilà, je rappelle qu'il y aura donc une réunion d'information jeudi 7 février à Loison-sous-Lens pour savoir ce qui va se passer au sujet de ce projet d'implantation d'un agriculteur là-bas. N'hésitez pas à y aller ou à chercher plus d'infos sur terredeliens.org. On va finir cette émission en musique, tout d'abord avec Natacha Kmeto, le titre c'est Snake Charmer.
Yeah.
Et voilà, pour conclure, je voulais également remercier nos amis de Radio PFM et de Radio Plus qui rediffusent cette émission. Vous pourrez la retrouver sur microrebelle.fr très très prochainement. Voilà, salut Jonathan, salut les auditrices et les auditeurs, à la semaine prochaine. On se quitte quand même en musique, un dernier titre qui, comme celui de tout à l'heure en milieu d'émission, est extrait d'une compilation d'un label qui s'appelle Buddha Beats. Et là, c'est Like a Cat par Kukram.
His regal appearance, grace, stealth and fighting prowess stamp him truly as the king of beasts.